Mon exposé inaugural, comme on dit, c'est de vous donner un peu notre grille de lecture de ce qui se passe au plan mondial, par rapport notamment, en insistant évidemment sur les nouvelles technologies. Qu'est-ce que nous observons, puisque nous sommes créés depuis 2005 et que nous avons une observation régulière, nous essayons de voir un peu ce qui se passe. Ce n'est pas facile, mais il se passe beaucoup de choses dans le domaine de l'éducation et de la formation. En partant de l'idée très simple que vous vivez aussi, vous, de l'architecture traditionnelle de l'enseignement, un professeur qui sait et un groupe qui ne sait pas, un programme, un groupe homogène. Vous savez, c'est la représentation qui est assez forte encore dans la population de l'éducation, de la formation, même parmi nos élus, même parmi même nos collègues, certains de nos collègues. Hein. Donc, partant de cette vision, cette représentation de l'éducation et de la formation, nous constatons depuis 2005 ce que nous appelons, nous, une révolution éducative, parce que dans le terme de révolution, il y a l'idée que c'est un nouvel ordre qui s'installe et un nouvel ordre qui est irréversible. Certains l'ont développé, hein, Jacques Attali, l'ancien directeur général de l'UNESCO, disait que lui, c'était carrément une révolution copernicienne. Alors, cette révolution éducative, selon nous, et je vais insister sur l'aspect numérique, donc révolution copernicienne, selon l'ancien directeur général de l'UNESCO. Pour la résumer, cette révolution, c'est une interaction entre trois tendances lourdes. Une tendance à la numérisation, l'introduction des nouvelles technologies dans l'éducation et la formation, et c'est plus large que l'enseignement à distance, hein. Interaction avec la mondialisation et avec la territorialisation et l'externalisation. Ce qui se passe, c'est que les systèmes traditionnels d'éducation formelle, de la maternelle à l'université, ne détiennent plus le monopole de la transmission des savoirs. Pour nous, il naît en ce moment un espace mondialisé d'apprentissage tout au long de la vie. On pourrait dire une école monde en réseau, enfin, ou une intelligence collective, collaborative mondiale. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, mais c'est pour nous un réseau planétaire des environnements personnels d'apprentissage. Alors on dit EPA, environnement personnel d'apprentissage, ou environnement numérique de travail. Enfin bon, il y a plusieurs dénominations, mais quand on entend par environnement personnel d'apprentissage, c'est l'idée, bah, tout simplement, quand on a un ordinateur, une imprimante connectée au réseau, on a tout de suite un espace personnel. Et puis on constate aussi que le rôle des enseignants, formateurs, tuteurs se transforme radicalement. Ce que je dis résulte des travaux que vous pouvez consulter. L'UNESCO a fait un rapport mondial, où c'est évoqué, le rapport mondial d'éducation des adultes, qui a été exposé à la CONFINTEA, Conférence internationale d'éducation des adultes de Belém, au Brésil. Ces travaux, ce que je vais dire aussi, résultent regards sur l'éducation de l'OCDE, qui paraissent tous les mois de septembre. Ça résulte aussi de notre veille. Hein. On essaie de faire une veille. Vous verrez vous avez vu l'adresse de notre site. On fait une veille mondiale. Hein. On essaie de voir un peu comment ça évolue, un peu partout. La mondialisation, comment elle se traduit? Elle se traduit par des offres transnationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos enfants, nos enfants, vos collègues, toute la population a des offres par Internet transnationales qui viennent de pays, d'autres pays, qui passent par-dessus les frontières. Alors, ça paraît simple comme ça. Mais il faut rappeler que c'est le gouvernement qui a encore la compétence en matière d'éducation. Hein. Donc si une offre transnationale vient d'Inde ou vient de Chine, elle n'est pas régulée par le gouvernement qui a pourtant l'autorité sur l'éducation. Et ils y tiennent. Et certains pays, notamment en Chine, nous ont dit que c'est eux qui s'occupaient de l'éducation. Ce n'est pas les autres pays. Mais par contre, les petits Chinois, aujourd'hui, peuvent apprendre l'anglais par une offre qui vient d'Inde ou qui vient du Canada. Ça se traduit aussi par les nouveaux entrants. L'éducation, pour nous, c'est une logique académique, c'est des universités. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux entrants de la communication, des télécommunications et de l'informatique. Le monopole est académique, en quelque sorte. Hein. Et puis, ce sont des offres, ce sont des nouveaux entrants sérieux, avec des offres sérieuses de qualité. La troisième tendance de la mondialisation, c'est une stratégie de réseau. Ces nouveaux entrants, mais aussi les opérateurs académiques, organisent un maillage mondial. Quelques exemples français, par exemple, la Sorbonne ou l'École centrale ont des pas des filiales, mais enfin des, je ne sais pas comment on dit, mais enfin ils ont des correspondants, des établissements qui fonctionnent hein, en Chine, au Qatar. Et puis les autres pays font la même chose, notamment la Chine fait un maillage mondial très discret à la chinoise. Ils installent les instituts Confucius partout. Le problème, c'est que nous, l'Alliance française est en recul. Par contre, les autres pays et les universités américaines anglo-saxonnes organisent un maillage mondial. Alors, la mondialisation, bon, bah, c'est les classements. Hein. Au début, en France, c'était un peu contesté, le classement de Shanghai, les classements anglo-saxons. Maintenant, tout le monde reconnaît qu'ils sont quand même sérieux. Et en fait, les gouvernements essaie de s'améliorer dans le classement. Alors le paradoxe en France, je ne sais pas si vous avez vu tous les classements, nos écoles de commerce sont numéro un mondiaux. La mondialisation aussi, c'est un problème politique, c'est qu'il n'y a aucune régulation. Mais ça a des conséquences importantes. Il y a un rapport de l'UNESCO qui est sorti en juin 2010 sur la corruption dans l'éducation. Et ils ont noté qu'on est passé de 200 universités bidons à 800 universités bidons en 4 ans. Et il n'y a pas de modèle économique encore de ces réseaux. Il y a des opérateurs qui développent des offres. La numérisation, j'insiste beaucoup. Bon, il y a une introduction massive des TIC. C'est important de le dire, surtout en France. On n'arrive pas à avoir un débat serein entre les anti et les pros. Mais c'est une introduction massive et qui s'accélère. La numérisation, c'est l'émergence, l'organisation de tous nos dispositifs éducatifs en dispositifs hybrides. La numérisation, c'est le e-learning. La quatrième tendance qui me paraît importante, c'est le phénomène des méga-universités. C'est quoi une méga-université? Ça a été défini par l'UNESCO. C'est une université qui a plus de 100 000 inscrits. Actuellement, il y en a 12. Bon, la plus impressionnante, c'est celle de la Indira Gandhi National Open University, qui a 1 500 000 inscrits, étudiants, et qui est répartie dans 32 pays. Alors, en France, on cite le CNED. Le discours du ministre, c'était de dire, bon, il faut que les universités françaises soient une visibilité internationale. Il y a un autre phénomène en termes de numérisation, c'est ce qu'on appelle le cloud computing. Je vous en parle parce que je l'ai appris hier. Il y a un projet qui a été retenu par le gouvernement français, Univ Cloud Consortium, qui est à l'initiative de l'Université numérique Île-de-France et qui prévoit proposer des services à toutes les universités au-delà de la région Île-de-France. Et le cloud computing, j'ai pas tout compris encore parce que je suis pas vraiment un spécialiste d'informatique, si quelqu'un dans la salle peut le définir, c'est quand même un mouvement important puisqu'il paraît que ça existe déjà. Nous avons déjà des serveurs virtuels dans lesquels nos données sont concentrées, mais là on irait vers des serveurs virtuels qui regrouperaient toutes nos données. Mais au plan éducatif, c'est important, hein, puisqu'on pourrait se constituer nous-mêmes notre propre bibliothèque. Nos propres données, les cours de nos professeurs. La numérisation, c'est aussi lié à la globalisation. C'est aussi des grands, grands programmes. Et là, je vous en cite un. Par exemple, le Pan-African Network Project for Tele-Education, en télémédecine, est un projet qui est initié par l'Inde, l'ancien premier ministre indien, qui est proposé à l'ensemble des pays de l'Union africaine, donc 54 pays, et qui leur propose tout bonnement de transférer toutes les technologies d'Inde et tous les contenus même. Ça fonctionne déjà. Il y a déjà une quinzaine de pays qui ont signé un protocole avec l'Inde, avec le gouvernement indien. C'est notamment l'université de New Delhi. Évidemment, ça s'adresse qu'aux étudiants africains qui parlent anglais. Mais c'est sérieux, ça se développe. Ce que l'on voit dans la numérisation, c'est qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement de déterritorialisation, donc un réseau virtuel, et il y a un mouvement de reterritorialisation. C'est-à-dire qu'on parle de ville apprenante, de régions apprenantes, d'entreprises apprenantes. Même en Chine, ils parlent de communautés apprenantes, c'est-à-dire au niveau du quartier. Il y a un double mouvement, déterritorialisation, donc un réseau virtuel, et aussi un réseau local, l'émergence de nouvelles collectivités apprenantes. Et donc, ça a été défini par un sociologue anglais, dont j'ai oublié le nom, la glocalisation. La troisième tendance, la marchandisation. Mondialisation, numérisation, marchandisation. Pourquoi marchandisation? Parce que globalement, il y a un recul de l'intervention publique dans le monde. Mais c'est un peu, vous voyez, c'est lié aux deux précédentes. Hein. Un recul de l'intervention publique. Le secteur public reste encore dominant partout. À Belém, il a été constaté par tous les intervenants que le public recule. C'est un marché gigantesque. Alors, on a du mal à évaluer l'évolution de la demande, mais quelqu'un a dit que ça a augmenté. La demande d'éducation et de formation augmenté de 10% par an. C'est l'OCDE, je crois, qui avait dit ça à un moment donné. Ce qui fait que les dépenses d'éducation restent quand même dans beaucoup de budgets en première place. Que font les gouvernements? Ils doivent arbitrer. Et comment ils arbitrent? France compris, en externalisant. C'est-à-dire que de plus en plus, les gouvernements confient des missions de service public et d'éducation à des régions, à des communes, à des groupes religieux, à des entreprises. Et donc c'est une externalisation qui progresse de façon très importante et un recul de l'intervention publique. Il y a de plus en plus un développement de la publicité et du sponsoring. Évidemment, hein, vous voyez l'entrée de Microsoft, Apple. Ils ont des politiques de marketing dirigées vers les enseignants, les écoles, les secteurs éducation, les secteurs formation. Hein. Et puis, il y a un développement des tarifications sélectives, hein, c'est évident. Tout ce que j'ai décrit, c'est évidemment, c'est payant et c'est pas un système républicain comme on le connaît, nous, en France. Donc, trois grandes tendances. Une tendance mondialisation, numérisation, marchandisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette révolution, où on en est acteur, où on la subit. Hein. Nous, on milite au comité mondial pour en être les acteurs, hein, avec nos petites mains, évidemment, puisque vous avez trois, quatre tendances au plan mondial. Et nous, on est une petite équipe. Mais je vais vous citer, alors là, plus politiquement, ce qui se développe au plan mondial. Pour l'instant, nous sommes la seule ONG sur le secteur des apprentissages tout au long de la vie. On ne va pas rester longtemps, mais enfin, pour l'instant, on y est encore. L'UNESCO a un institut qui est spécialisé dans les apprentissages tout au long de la vie, qui est à Hambourg. Mais à côté, il y a le Forum social mondial, qui organise régulièrement des rencontres éducation. Le Forum social mondial, c'est plutôt altermondialiste. Donc, vous connaissez leur position. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le WISE. Le WISE qui organise un World Innovation Education, je crois, enfin l'innovation dans l'éducation. Là, c'est la fondation du Qatar. Là, c'est plus sérieux. C'est 3000 délégués qui viennent du monde entier, tout frais payé. Donc nous, on ne fait pas le poids, évidemment. L'ONEJ ne fait pas le poids. Mais le WISE se définit comme le Davos de l'éducation. Enfin, vous voyez, c'est clair. Hein. Donc, et ils en sont au troisième. Forum, ils organisent ça une fois par an et c'est la fondation du Qatar. Et je vous recommande d'ailleurs Euronews. Euronews fait une émission hebdomadaire sur l'éducation en partenariat avec le WISE, sur l'université, sur l'introduction des nouvelles technologies, sur l'éducation dans le monde entier. Vous avez une autre tendance, c'est le Conseil international d'éducation des adultes, qui était présidé par Paul Bélanger et qui est maintenant présidé par un Anglais, Alan Tuckett, dont le siège est en Uruguay, qui a une histoire plutôt Paulo Freire, on pourrait dire, mais qui maintenant fédère l'ensemble des organismes de formation du monde. Et alors la France est absente. Hein. Il y a un autre mouvement important, c'est l'International de l'éducation, qui fédère la totalité des syndicats d'enseignants du monde entier. 37 millions. Elle a un positionnement, on pourrait dire, proche du FSM, altermondialisme, mais plutôt en défense des enseignants. Quoi, hein. C'est pas complètement positionné FSM, mais ils ont des positions assez radicales quand même pour la défense des enseignants dans le monde entier. Nous, notre ONG essaie de militer. Vous avez compris qu'on est complètement isolés, hein, nous Français, avec notre laïcité, notre école républicaine, on se sent complètement isolés. Mais il n'y a pas de raison, on avance, hein, on est audacieux, on n'a pas peur. Et à tel point que l'UNESCO nous a fait confiance, donc après tout, on est positionné sur l'UNESCO. On a fait un premier forum mondial à l'UNESCO en 2008, on en a fait un deuxième à Shanghai en 2010. Et on en fait un troisième à Marrakech en octobre prochain. Ce troisième forum mondial est organisé à Marrakech le 31 octobre, 1er et 2 novembre. L'idée, c'est de développer, de travailler tout ce que je viens de dénoncer. Il y a d'autres thèmes qui émergent, c'est le rapport entre la santé et l'éducation. Il y aura 9 ateliers, mais il y en a un qui sera consacré à santé et éducation. Nous avons prévu 9 ateliers, et un tiers des ateliers est consacré à l'entreprise, enfin la formation en entreprise, parce que on essaie de décloisonner Alors ça, c'est un peu français. Hein. Vous savez qu'on a du mal à faire travailler les entreprises et le secteur académique. Enfin, nous, on essaie de faire travailler tout le monde autour de la, de mettre tout le monde autour de la table. La première, premier forum à l'UNESCO, on a fait venir des multinationales comme Veolia, Danone, Bongrain. Et on nous a dit à l'UNESCO que c'était un peu révolutionnaire de faire venir, enfin subversif, faire venir des grandes multinationales à l'UNESCO. Mais bon, maintenant, le temps est terminé où il faut travailler ensemble, quoi. Donc nous, l'idée, c'est de faire travailler tous les acteurs économiques, sociaux, culturels, académiques. Voilà. Donc je vous invite à Marrakech. Il n'y a pas seulement le forum, il y a aussi un circuit touristique. Et voilà, je vous remercie et je remercie Denis.